Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 29e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir un texte de Jordi Villa-Cornelas. Jordi Villa-Cornelas est auteur de romans, de nouvelles et de novellas de science-fiction, space opéra et dystopie, et de fantasy. Né en Bretagne en 1973, Jordi Villa-Cornelas vit à Champcevinel. Il est expert en accessibilité numérique pour les personnes handicapées. Depuis 2018, il a publié une dizaine de nouvelles chez différents éditeurs et dans différentes revues, dont récemment « Les dragons de Solustan » dans l'anthologie « De flammes et d'écailles » aux éditions Black Rabbit et « La dessiccation du Voie lactée » aux éditions Arcuiris. Aujourd'hui, je vais vous lire les deux premiers chapitres de La jeune fille qui entendait chanter les vents solaires, novella de space opéra sélectionnée dans le Grand Prix de l'Imaginaire 2025. Chapitre 1. Le ronronnement du vaisseau ramena Lysandre à la réalité. Trempée de sueur, désorientée et étouffée par l'exiguïté de la couchette, la jeune fille tâtonna à la recherche du bouton de sa veilleuse. Maudit rêve, pire que la nuit précédente. La vie lui avait appris à se méfier des rêves, ces messages indiscrets qui fouinaient au fond de l'âme pour en exhiber, goguenard, les travers, les craintes ou les espoirs déçus. Celui-ci portait la trace des messages oniriques empathiques, ces messages dangereux qui gravitaient à la périphérie de la prémonition, toile tissée sur le métier des ondes mentales, captées inconsciemment. L'un des inconvénients du don de Lysandre, jeune empathe formé à l'alma mater, l'université des mentalistes. Le halo blanchâtre de la lampe révéla un désordre inhabituel dans son alcôve. Ses affaires traînaient, éparpillées en tous sens comme après une panne de gravité artificielle. Le bruit assourdi du vaisseau, ponctué de grincements métalliques, la rasséréna sans la soulager. Malgré l'immensité du navire et ses milliers de passagers, jamais elle ne s'était sentie aussi seule. Un comble. Pour une mentaliste formée à écouter et comprendre les autres jusque dans leur retraite secrète, au plus profond de leur peine comme de leur joie. Une vibration de sa LifeWatch indiqua une demande de communication. Le visage holographique de sa tutrice s'afficha dans la pénombre.
« Encore un mauvais rêve, mademoiselle Szymanowska ?»
Aucun trouble ne pouvait échapper à la vigilance de la vieille Elion Engelstein. Lysandre monopolisait une énergie psionique importante afin de conserver un jardin secret à l'abri des pouvoirs de sa professeure. Protéger son esprit de l'invasion, parfois involontaire, d'un autre mentaliste demandait de la concentration et de l'énergie. Aussi réservait-elle ses forces pour les moments où elle savait celle-ci à l'affût de ses émotions.
« L'équipe signale la traversée d'une zone de vent solaire. Peut-être que votre sommeil s'en trouve perturbé. »«
Pas que mon sommeil, » songea Lysandre en constatant le chaos sur sa couchette.
« Venez prendre un bulbe de tisane dans ma cabine. » poursuivit sa tutrice. « Le confinement de votre dortoir asphyxie votre esprit. »
Lysandre renforça son rempart mental afin de dissimuler les causes profondes de son désarroi. Elle craignait les réactions de sa tutrice si celle-ci découvrait l'étendue de son désespoir. Depuis son départ de Mars, Lysandre bouillonnait en quête d'une issue, un moyen d'échapper à son affectation sur la station Vostok. Ses résultats au concours de sortie de l'Alma Mater l'avaient relégué au dernier choix, avec l'obligation d'effectuer 7 années de service pour rembourser ses études. Elle ne parvenait pas à accepter ce qu'elle considérait comme une punition. Assistante psychiatrique à l'hôpital militaire de la Fédération solaire. Un poste très inconfortable, au contact des réfugiés des guerres coloniales et de leurs souffrances, en prise directe avec les syndromes post-traumatiques des soldats rapatriés des zones de conflit. Elle trembla, rien que d'y penser. Jamais elle ne serait à la hauteur d'une telle tâche. Pire, elle craignait de s'effondrer psychologiquement dès les premiers jours.
« Ne ressassez pas, mademoiselle. Vous n'avez pas échoué. Je ne cesserai de le répéter jusqu'à ce que l'évidence vous saute aux yeux. Laissez-vous porter par votre instinct. »
Lysandre se massa les tempes.
Un sentiment oppressant ne la quittait plus depuis sa montée à bord du Majestic. Elle avait d'abord mis cette tension sur le compte de sa déception et de l'appréhension du départ. Très vite, ses phases de sommeil s'étaient chargées de rêves angoissants, mais rien en comparaison de celui qu'elle venait de vivre. Son instinct lui criait qu'un grave danger menaçait le navire. Elle préféra n'en rien dire à sa tutrice et réserver ses craintes pour sa confidente, la jeune Zélia Petrovsk, camarade de l'Alma, embarquée à bord du Majestic pour une mission plus glorieuse que la sienne. Sortie première de sa promotion, à l'extrême opposé de Lysandre, elle avait eu l'embarras du choix quant à ses opportunités de carrière. Elle avait choisi la marine spatiale et obtenu une place d'assistante de commandement sur le Majestic. Officiellement, elle ne tenait qu'un rôle de secrétaire, officieusement celui de conseillère privée du commandant, mettant à son service ses dons de prescience afin de l'aider dans ses décisions. Lysandre lui enviait ses capacités et son assurance. Zélia n'avait bien entendu jamais douté d'arriver à ses fins. Peut-être savait-elle déjà où son destin devait la mener. Une vague de bienveillance caressa l'esprit de la jeune en pâte, ramenant son attention sur le visage chaleureux de sa tutrice. « J'ai des sédatifs, si vous voulez, » proposa Engelstein. Lysandre ne souhaitait plus dormir. Le sommeil libérait ses démons et les rendait incontrôlables. La nuit, son esprit s'aventurait sur des voies interdites, vers des routes sans étoiles, emplies d'échos sinistres. Elle déclina la proposition et coupa poliment la communication. Se contorsionnant dans sa couchette, elle passa la combinaison fournie aux passagers de troisième classe et déverrouilla la porte. Le dortoir ronronnait sous les lèvres d'acier des bouches d'aération. Pas une âme en vue, à peine un souffle d'air conditionné porteur d'une fragrance métallique. La plupart des voyageurs des dernières classes s'abrutissaient de drogue et de VR pendant la durée de la traversée, tandis que dans les anneaux supérieurs, la jet-set solaire s'encanaillait, oublieuse du conflit qui embrasait l'empire des hommes. Les effluves mentaux de leur libation se mêlaient aux relents de mépris qui flottaient à travers les corridors du vaisseau, brouets écœurants dont Lysandre avalait des louches psychiques chaque fois qu'elle laissait son esprit s'ouvrir trop librement. Si elle se concentrait, elle finissait immanquablement par capter la pulsation d'une volonté malveillante. Pas le simple écho indésirable d'une mauvaise pensée, comme le navire en regorgeait et dont elle se prémunissait en fermant d'instinct ses écoutilles. Une aura, dont le dessin supérieurement malsain perçait ses défenses et l'empêchait de trouver la sérénité. Elle se laissa choir le long de l'échelle et traversa la coursive comme un fantôme. La gravité artificielle des classes martiennes ne dépassait jamais les 0,4 G. Aussi requit-elle l'assistance de ses semelles magnétiques pour limiter l'inertie de ses mouvements. La cabine de Zélia se trouvait dans le secteur réservé aux navigants. Comme Lysandre n'y avait pas accès, elle se permit de la réveiller à coups de Life Watch. Le visage narquois de sa camarade apparut devant elle. Auburn, les cheveux courts, coiffée en pétard à la mode spatiale, elle arborait une série d'étoiles brillantes sous l'œil droit, touche de coquetterie typiquement martienne. Ses yeux bleus glacés pétillaient d'intelligence. Avec sa beauté intimidante et ses lèvres pincées, Zélia avait tout de la femme fatale.
« Désolée de te déranger, tu ne dormais pas, j'espère ?»
Zélia secoua la tête.
« J'avais mis un réveil, je savais que tu allais m'appeler. »«
Ville menteuse !» gronda Lysandre, heureuse d'entendre son amie ricaner.
« Dis-moi, pour que tu m'appelles au milieu de ma pause, c'est que ça doit être important. »
Lysandre poursuivit sa route en s'assurant de n'être entendue par personne.
« Pendant mon sommeil, je reçois comme des messages, Zélia. »«
Je sais, tu m'en as déjà parlé. »«
Non, je ne t'en ai jamais parlé. Cesse de me jouer le coup de la préscience à chaque fois. Je suis vraiment inquiète. Je fais des rêves, des trucs de plus en plus sombres, toujours en relation avec ce vaisseau. J'ai peur qu'il s'agisse de rêves prémonitoires. »
Elle lui raconta en détail son dernier cauchemar. Le visage d'un inconnu, aux lèvres noires, les yeux caves, les paroles lourdes de menaces proférées avec un fort accent jovien. Elle lui rapporta le discours qui insistait sur la destruction du navire, revendication d'un attentat qui mettait en avant un groupuscule dont le nom lui échappait au réveil.
Les visions d'avenir sont souvent parcellaires et déformées par les tunnels qu'elles empruntent, commenta doctement Zélia. Si tu possédais des aptitudes précognitives, elles auraient été détectées dès ton entrée à l'Alma Mater. Il est plus probable qu'il s'agisse d'un simple cauchemar récurrent.
Lysandre claqua de la langue.
Voilà le discours que je ne voulais pas entendre. Je n'ai rien dit à Engelstein parce que je sais qu'elle m'aurait raconté la même chose.
Zélia baissa les yeux.
Écoute, Lise, ce n'est pas que je ne veux pas te croire, mais... « Là, ça ressemble davantage à des troubles communs du sommeil, le fameux mal de l'espace qui touche la plupart des passagers de ce vaisseau.
Devant la réaction crispée de Lysandre, elle ajouta
« Ok, je vais sonder, je ne garantis rien ».
Malgré un voile mental dressé à la dernière minute, Zélia ne put complètement masquer son scepticisme à Lysandre qui hocha la tête avec raideur avant de couper la communication. Si Zélia ne voulait pas la prendre au sérieux, il ne lui restait qu'à se débrouiller toute seule. Arrivée dans le hall, elle se laissa guider par son instinct, flairant comme un limier la trace de plus en plus prégnante de l'émission malsaine. Remontant la piste à travers les zones de vie, elle explora les veines chargées d'hologrammes publicitaires des anneaux inférieurs, visita les salons de divertissement et les galeries commerciales dédiées à l'inutile, croisant de jeunes voyageurs ivres chargés de fantasmes grossiers ou de familles aux costumes bigarrés et aux dialectes incompréhensibles. Son exploration dura plusieurs cycles, obnubilée par cette onde inquiétante dont elle n'arrivait pas à déterminer l'origine. Chaque phase de sommeil qui entrecoupait ses déambulations la ramenait à son cauchemar, chaque fois plus nette. Elle finit par s'aventurer jusqu'au secteur de la seconde classe. Sur la passerelle, un robot en métal blanc laqué filtrait les passagers. « Vous n'êtes pas autorisé à vous rendre au secteur 2, mademoiselle », annonça la machine d'une voix douce. « Voici les zones auxquelles votre accréditation donne accès. » Un plan holographique du navire apparut devant elle. Le Majestic se composait d'un long tube entouré de 9 anneaux à vitesse variable, adaptés aux 3 types de voyageurs. Les lunaires, habitués à une gravité faible, les martiens, qui appréciaient une gravité moyenne, et les terriens, adeptes de la 1G. Les anneaux inférieurs brillaient d'une lueur verte, le reste luisait d'un halo rouge. Elle se laissa happer par l'hologramme, attirée malgré elle par une protubérance accolée contre le corps du vaisseau à la base de l'anneau terrien de première classe, loin des sections habitées. C'était là. Elle le sentait. Une aura de malheur émise comme un écho-radar, pulsante et répétitive.
« Qu'est-ce que c'est que cette bosse ?»
Le robot marqua une hésitation avant d'annoncer « Module médical d'urgence, zone de quarantaine. » Accès, personnel autorisé uniquement. Elle passa la main à travers l'image et ferma les yeux. Rien durant ses études d'empathie ne l'avait préparée à ce genre de sensation. Elle qui s'attachait aux sentiments humains, aux mouvements de l'âme, dont elle comprenait les signes et décodait les ondes en émotions claires, ici, autre chose était à l'œuvre. Une émanation née d'une malfaisance diffuse qui s'insinuait dans les artères du navire. Apposant une empreinte mentale sur ceux dont l'esprit savait déceler les subtiles variations des champs psychiques. Cela sentait la mort et la perdition.
« Ce module présente un défaut technique qui met en danger le vaisseau », improvisa-t-elle, soudain nerveuse. « Pouvez-vous prévenir quelqu'un ?»
La machine courba sa tête métallique. Sa lentille vidéo fixa la jeune femme comme si elle tentait de déceler un piège dans sa requête.
« Bonjour, mademoiselle Szymanowska !»
réagit soudain le robot, troquant sa voix masculine pour un timbre féminin. Lysandre sursauta.
« Je suis Sybille, l'IA de bord. J'ai entendu votre remarque au sujet du module de quarantaine. Je peux vous assurer que tout va bien. La structure ne présente aucune faille qui puisse mettre en danger le Majestic.
Rien non plus à l'intérieur du module? Aucun produit dangereux? Rien qu'une personne malveillante pourrait employer pour nuire au vaisseau ?»
« J'entends votre inquiétude, mademoiselle. Je vais commander un audit. La compagnie Stars and Flights vous remercie pour votre prévenance à l'égard du fonctionnement de son vaisseau. »«
Un audit ?» songea Lysandre, en observant le bout de la passerelle. L'IA se moquait-elle ou dissimulait-elle volontairement quelque chose ? L'accès aux classes supérieures se trouvait à peine à quelques pas. En désactivant ses semelles magnétiques, un seul bond suffirait à l'amener jusqu'à l'ascenseur. Prise d'un accès de témérité, elle s'élança. Chapitre 2. Lysandre traversa la passerelle en deux bonds mal maîtrisés et se réceptionna contre le tube de l'ascenseur. Elle martela le bouton d'appel dont le voyant demeura sourd à ses injonctions.
« C'est inutile, mademoiselle Szymanowska !»
l'interpella l'IA, avec le ton calme et posé d'une maîtresse d'école peinée par les efforts contradictoires d'une élève.
« Je viens de désactiver l'ascenseur. Si vous insistez, je serai contrainte d'appeler un SecBot. »
Frustrée. Lysandre laissa retomber ses poings contre son corps.
« Quel naïf je fais » songea-t-elle.
L'esprit électronique contrôlait tout. Tout, sauf l'émission malveillante qui imprégnait le navire.
L'IA, malgré son omnipotence, demeurait aveugle aux menées les plus sombres des humains qu'elle convoyait à l'autre bout du système solaire. Ordinateur ou équipage, personne ne porterait attention aux mises en garde d'une Cassandre de troisième classe. Lysandre devait trouver un autre moyen de découvrir ce qui se tramait dans ce vaisseau. Et si, par malheur, il s'avérait que le navire courut réellement un danger, elle devrait apporter des preuves de ce qu'elle pressentait ou se contenter de subir. Frustrée, elle retourna au dortoir avec le sentiment désagréable d'avoir été injustement rabrouée par une vulgaire machine. Recroquevillée dans sa couchette, elle ne parvint pas à trouver le repos. Le visage d'Elion Engelstein se dessina au-dessus d'elle.
« Vous devriez essayer les sédatifs. Vous épuisez vos ressources avec votre nervosité. »
Sa tutrice confirmait ses soupçons. Elle lui procurait des soins mentaux à distance pour la calmer. Que se passerait-il si la vieille mentaliste relâchait sa surveillance? Lysandre dompta ses émotions pour ne rien révéler de son agacement. Elle n'avait pas besoin que quiconque apaise son esprit. Elle avait besoin d'aide pour comprendre la source de ses angoisses. Elle se décida à lui révéler ses cauchemars.
« Ce que vous percevez pourrait être l'écho d'un événement en germe, »
analysa sa tutrice.
« L'image d'un événement qui n'a pas eu lieu, une prémonition ? Je préfère parler de connexion. Vous ressentez des vibrations qui émanent d'esprits humains. Quelqu'un à bord de ce vaisseau émet un champ psychique puissant qui vous perturbe. Il pourrait même s'agir d'un groupe de personnes. Mal intentionné ? Possible. Vous êtes très sensible aux pensées négatives, à la haine en particulier. »
Lysandre se souvenait clairement de son échec au dernier examen de l'Alma Mater. L'un des examinateurs avait projeté une vague de sentiments malveillants à son égard. Une simple simulation mentale, mais elle avait craqué et s'était effondrée, incapable de supporter la violence de l'onde. Engelstein la tira de ce souvenir douloureux.
« Cet examen prouve que vous valez bien plus que l'estimation obtenue à l'issue des concours. Vous êtes une perle et l'Alma Mater ne l'a pas compris. » « Moi, si. Nous avons le même don et vous le découvrirez bientôt. Ne désespérez pas, je vais vous aider. »
Lysandre se redressa.
« Madame Engelstein ?»
Elle ne la laissa pas formuler sa question.
« Je pense que votre affectation sur Vostok vous préoccupe trop, Lysandre. Ne soyez pas aussi inquiète. Vous verrez, tout se passera bien. »
Elle la couvrit de pensées positives et calma son âme d'une caresse mentale.
« Dormez, je vais sonder mentalement le navire pour m'assurer que tout va bien. »
Lysandre verrouilla son esprit et pratiqua ses exercices de méditation, sans succès. Dans l'habitacle oppressant de sa couchette, le sommeil la fuyait, chassée par une pulsation lancinante. Furieuse contre ses angoisses, elle alluma sa veilleuse. Sa tutrice avait raison. Cette mission sur la station orbitale Vostok la perturbait, autant par ses enjeux que par sa durée. Elle se sentait esclave de son destin, lancée vers les confins, vers cette planète isolée, fatiguée. Autour de laquelle gravitait la station relais, si lointaine que le soleil ne représentait pour elle qu'une tête d'épingle dans un ciel constellé d'étoiles. 250 unités astronomiques séparaient sa Mars natale de cette géante silencieuse, aujourd'hui théâtre d'une guerre fratricide entre colons et métropole solaire. Se pouvait-il que l'appréhension de ce déracinement fût à l'origine de ses cauchemars ? Lysandre se retourna dans sa couchette, les yeux grands ouverts, sur la projection d'étoiles qui animait l'écran en forme de hublot. S'il existait un lien entre ses rêves, ce vaisseau et ce qu'il transportait, il fallait qu'elle en ait le cœur net. Vérifiant rapidement l'heure, elle appela Zélia. Comme à son habitude, la jeune fille répondit avec un sourire amusé.
« Salut Lys, je suppose que tu m'appelles au sujet de tes visions ?»«
Quelle précognitive de grand talent !»
Elle gloussa.
« Je sais. Comment tu vas ?»«
Merci de t'en inquiéter. »
« Je travaille, moi, sur ce vaisseau. Je ne suis pas une plaisancière, » plaisanta-t-elle. « Mais je ne t'ai pas oublié, ma grande. J'ai cherché. »
« Et ?»«
Je n'ai rien trouvé qui puisse éveiller l'intérêt de mes supérieurs. »«
Eh bien, moi, si. Mais je me suis fait refouler par l'IA de bord. »«
Qu'est-ce que tu as trouvé ? Un allumé encapuchonné qui débitait des mauvais présages dans le grand hall ?»«
Zélia, je t'en prie. J'ai découvert l'origine des ondes négatives qui hantent ce vaisseau. » Mais c'est en secteur privé, je ne peux pas y aller. Et l'IA de bord ne tient pas compte de mes avertissements.
Le contraire eût été surprenant.
Il y a un module de quarantaine à bord. C'est une espèce de grosse cloque sur la coque du navire, entre les anneaux terriens et martiens de première classe. Je pense que tout vient de là. Est-ce que tu aurais moyen de t'arranger pour que le commandant y diligente une expertise ?
Sous quel prétexte ?
Invente une vision, un truc technique qui déraille, je ne sais pas. C'est toi le cerveau de l'Alma, celle qui a raflé tous les prix. Tu ne veux pas faire un effort ?
Zélia afficha une moue contrariée. Isandre savait qu'elle ne prenait pas ses avertissements au sérieux. Après tout, elle avait affaire à la pire élève de sa promotion, juste douée en empathie, un pouvoir de seconde zone, incapable de manifester la moindre appétence pour les autres disciplines psioniques. Comment Zélia, qui possédait un réel don, pourrait-elle se fier à une incompétente notoire? Elle soupira. Elle s'étonnait toujours de leur amitié malgré leur tempérament aussi éloigné. Sans ses qualités d'empathe, jamais Lysandre n'aurait pu entrer dans le cercle très privé de Zélia, cette jeune fille solitaire et tellement sûre d'elle.
« Lys, ma crédibilité est en jeu. Je ne peux pas m'amuser à crier au loup si derrière je ne prouve pas un minimum que je sais de quoi je parle. Et pour ce qui est de tes craintes, je n'ai rien ressenti. Le vaisseau fourmille de diplomates et de tensions liées à cette maudite guerre coloniale. »
Lysandre s'apprêtait à lui reprocher de ne penser qu'à sa carrière quand la dernière phrase de son ami éveilla son intérêt.
« Des diplomates ?»
Zélia se mordit la lèvre.
« Je t'en ai trop dit. C'est confidentiel. Jure-moi que tu ne raconteras ça à personne. »
Malgré ses barrières mentales, Lysandre perçut l'anxiété de la jeune promue. Le sujet devait être sérieux.
« Jurez craché, mais toi, tu me promets d'ouvrir grand tes chakras. » Pour une fois, fie-toi à moi. Je ne te parle pas de préconition, là. Je te parle d'empathie. Je ressens une forme de malignité éparse condensée au niveau du module de quarantaine.
Zélia hocha la tête. Lysandre sut qu'elle avait touché au but. En déplaçant le sujet vers son propre domaine de compétences, l'empathie, rare sujet que Zélia ne maîtrisait pas, elle s'était assurée son attention.
D'accord, je comprends mieux. Tu ressens un truc pas sain et tu supposes que ton cerveau dessine une interprétation la nuit dans tes rêves, c'est ça ?
Lysandre leva le pouce devant la silhouette holographique. Les lèvres de Zélia s'étirèrent en un sourire chaleureux.
T'as gagné, ma belle. Je vais attirer l'attention de la sécu sur le module de quarantaine et je te tiendrai informé.
Le soulagement de Lysandre n'échappa pas à Zélia, qui la gratifia d'un clin d'œil avant de couper la communication. Lysandre se leva, enfila sa combinaison de voyage et descendit à son alvéole. Elle avait besoin de se détendre un peu. Dans la salle commune du dortoir, un hologramme projetait des informations internes au vaisseau. Elle s'installa dans un hamac et commanda un bulbe de lait d'amande au distributeur, qu'elle sirota en regardant une émission insipide. Les images présentaient la salle de bal du secteur terrien de première classe. Une foule chamarrée de richissimes voyageurs stellaires, négociants, propriétaires lunaires, vieilles aristocrates exilés et autres pontes de l'industrie coloniale s'y donnaient en spectacle. Un présentateur people au costume arlequin des plus grotesques, la moitié du visage peint en bleu, l'autre en teinte métallisée, interrogeait une passagère coiffée d'une sorte de salade verte, les seins nus, peinturlurés de logos publicitaires animés. Lysandre se concentra, cherchant mentalement un lien avec ses rêves. Derrière l'animateur, des hommes et des femmes sautillaient béatement sur des airs de trance and dance, tous probablement euphorisés par des shots aux micro-algues hallucinogènes de Ganymède. La remarque d'Engelstein au sujet de ses pouvoirs inexploités ne cessait de la questionner. Prise d'une inspiration subite, elle lança son esprit à tâtons vers la foule holographique. Devant le retour impressionnant d'ondes mentales, elle comprit que les images étaient tournées en direct. Excitée par cette expérience inédite, elle recueillit avec appréhension le bruissement sourd des âmes en mouvement, amalgame de pulsions et d'émotions dont le tri n'avait rien de simple. Hypocrisie, orgueil, insouciance, jalousie, crainte, un peu d'amour, beaucoup de mépris, parfois une once de bonheur ou de désespoir. Elle ferma les yeux et inspira profondément, cherchant au-delà. Tandis qu'elle s'apprêtait à refermer son esprit, une onde subtile la traversa, comme une brise légère effleurant la surface d'un lac. Lysandre tenta d'en saisir l'origine, remontant vers la source du flux avec précaution, offrant un peu de son énergie mentale en échange d'un fil d'Ariane à suivre. Plus elle tirait sur ce lien éthéré, plus il se tendait. Attirée malgré elle, sa conscience dériva. Peu à peu, elle perdit le contrôle et se sentit aspirée contre son gré. Incapable de faire marche arrière, elle heurta un mur psychique d'une résistance inattendue. Son bulbe lui échappa des mains et rebondit au sol. Une vive douleur lui aiguillonna le crâne, déversant comme un feu liquide dans ses veines et ses poumons. Un kaléidoscope d'images et de sensations brutes prit d'assaut son espace mental, piétinant ses défenses et forçant le passage vers son être intime.
Entre deux hoquets, elle parvint à reprendre son souffle et à dresser en urgence des barrières de protection, usant de toute sa volonté pour repousser la pression d'un esprit invasif. Après une lutte aussi rapide qu'interminable, elle sentit les vagues psychiques refluer. Épuisée, elle roula sur le dos. Le contact glacé du sol la rappela à la réalité. Elle se retrouva étendue sous le hamac, du sang coulant de ses narines le long de ses joues baignées de larmes. Elle ferma les yeux pour chasser un vertige. Un mentaliste. Pourtant, aucun mentaliste n'usait de ses pouvoirs de manière agressive, acte interdit par la charte de l'Alma et sévèrement réprimé. Les implications de cette attaque mentale augmentèrent son effroi. Précédé d'une sirène assourdie, un medbot pénétra dans la salle en projetant des éclairs bleutés. Le robot, une espèce de gros œuf à tentacules, sans doute dépêché par l'IA de bord, s'arrêta à côté de Lysandre. La jeune fille, prisonnière de sa douleur, n'arrivait plus à se relever. Derrière le medbot, une foule de curieux, armés de caméras rétiniennes, s'engouffra dans la pièce. Agressée par l'excitation mentale et le voyeurisme, Lysandre ne parvenait plus à maintenir ses protections. Du calme. Elle avait besoin de reprendre le contrôle de ses émotions. Sinon, elle se trouverait complètement démunie en cas de nouvelle attaque. Ignorant les appendices du robot médical qui la palpait au son d'une mélodie ridicule, elle posa ses doigts contre ses tempes et fit le vide dans son esprit. Jamais elle ne s'était sentie aussi épuisée. Elle venait de refermer les yeux quand elle reçut une nouvelle touche mentale, comme une brise légère effleurant la surface d'un lac. Vous venez d'entendre les deux premiers chapitres de La jeune fille qui entendait chanter les vents solaires de Jordi Villa Cornelas, que vous pouvez vous procurer en librairie et sur Internet. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que pour me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains, vous pouvez contacter RLP par mail à l'adresse radiolibresenperigord@gmail.com ou laisser un message au 05 53 46 80 24 en précisant le nom de l'émission Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.